Et avant de retrouver toute l'équipe, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le magazine des sports du lundi avec d'abord du football. Lionel Sabot joue en effet ce matin, ce week-end même, les 32e de finale de la Coupe de France.
Et dans le dernier match, le choc de ces 32e de finale de la compétition, le Paris Saint-Germain a décroché son billet au bout du suspense sur la pelouse de Bollaert à Lens. Les deux équipes étaient à égalité un partout à l'issue du temps réglementaire. Il a donc fallu passer par la séance des tirs au but pour voir les Parisiens s'imposer 4 tirs au but à 3. Écoutez la réaction de Warren Zahir Emery, l'un des milieux de terrain du PSG.
En venant ici, on savait que ça allait être compliqué. Ils allaient mettre du rythme. Maintenant, on a su aussi le faire. On a su créer des occasions, marquer quelque chose qu'on avait un peu du mal. Et après, c'est la force de ce groupe qui fait qu'on va chercher cette qualification. On va continuer cette aventure en Coupe de France.
Un Paris qualifié qui affrontera en 16e de finale le FC Espaliste, un club de Haute-Loire qui évolue en National 3, c'est l'équivalent de la 6e division. Les autres résultats enregistrés ce matin, Marseille est allé l'emporter 4-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Monaco l'a emporté 4-1 sur les Hauts-Garonnais de l'Union Saint-Jean. Ça passe également pour Rennes qui l'a emporté 4-1 sur Bordeaux qui évolue, rappelons-le, en National 2. À noter également la défaite d'Auxerre, club de Ligue 1, battu 1-0 par Dunkerque, club de Ligue 2. Rappelons qu'hier, le Puy-en-Velay s'était imposé 4-0 sur Montpellier, victoire de Nantes sur Drancy ou encore de Nice sur Brest. Les 16e de finale de la Coupe de France se joueront à la mi-janvier.
Et comme tous les lundis, Lionel, un petit coup d'œil maintenant sur les autres pelouses européennes.
Allez, je vous emmène en Angleterre avec le carton ce matin de Liverpool qui est allé l'emporter 6-3 sur la pelouse de Tottenham. Manchester United s'est incliné à domicile 3-0 face à Bournemouth. 0-0 entre Everton et Chelsea. Arsenal s'était imposé hier 5-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Puis Manchester City avait subi une nouvelle défaite, battue 2-1 par Aston Villa au classement. Liverpool est en tête devant Chelsea et Arsenal. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé 4-2 ce matin face au FC Séville. Puis dans le choc de ce week-end, l'Atlético Madrid est allé l'emporter hier 2-1 sur le FC Barcelone. L'Atlético Madrid qui reste en tête devant le Real et le FC Barcelone. En Allemagne, le Bayern Munich a renoué avec la victoire. Le Bayern qui s'est imposé 5-1 sur Leipzig. Victoire du Werder Bremen 4-1 sur l'Union Berlin. Et du Bayer Leverkusen 5-1 face à Fribourg ce matin. Le Borussia Dortmund est allé l'emporter 3-1 sur la pelouse de Wolfsburg. Au classement général, le Bayern Munich est en tête devant le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort. Et puis en Italie, le leader du championnat, l'Atalanta Bergame, s'est imposé 3-2 ce matin sur Empoli. Victoire de la Juventus 2-1 sur la pelouse de Monza. Enfin, Naples s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Genoa. L'Atalanta Bergame qui est en tête devant Naples et l'Inter Milan.
L'actualité du rugby maintenant avec la 12e journée de Top 14 qui s'est terminée ce matin par une dernière rencontre.
Ah oui, un dernier match qui voyait une confrontation entre Lyon et Toulouse. Un choc des extrêmes entre des Lyonnais très à la peine dans ce championnat et des Toulousains leaders avant la rencontre. Au final, les Lyonnais et les Toulousains se sont quittés sur un match nul, 17 partout. Le Loup a inscrit un essai par Ioane. Les Toulousains ont aplati à 2 reprises dans l'embut adverse. Réalisation signée Graou et Ntamak. Rappelons les autres résultats de cette 12e journée avec La Rochelle qui s'est imposée 20-15 sur Clermont. Montpellier qui l'a emporté 21-17 sur le Racing 92. Le carton de Toulon 56-25 face à Pau. Bayonne est allé l'emporter 27-21 sur la pelouse de Vannes. Victoire du Stade français 24-7 sur Perpignan. Et victoire en déplacement de l'Union Bordeaux-Bègles qui est allé l'emporter 13-3 sur la pelouse de Castres. Au classement général, Toulouse est désormais collier avec l'Union Bordeaux-Bègles, suivent Toulon, Bayonne, Clermont et La Rochelle en bas de classement. Pau et Vannes ferment la marche.
Les sports d'hiver avec un petit mot de ski alpin.
Alors tout petit puisqu'il y avait slalom géant disputé cette nuit à Altabadia, c'est en Italie, a signalé la très belle deuxième place du Français Léo Anguenau. Il prend la deuxième place juste derrière le Suisse et intouchable Marco Odermatt.
Et puis de la voile pour terminer cette page consacrée aux résultats sur la scène nationale et internationale avec le Vendée Globe. Nous en sommes maintenant maintenant au 42e jour de course. Deux skippers sont en tête.
Johan Richomme sur Paprec Arkea est en tête de la flotte. Il devance d'une trentaine de kilomètres seulement Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. Les deux hommes sont à peu près 2000 kilomètres du Cap Horn, le dernier grand cap de cette course autour du monde. Johan Richomme estime qu'il devrait franchir le mythique rocher dans les toutes prochaines heures pour commencer la grande remontée vers les Sables d'Olonne. Un début de remontée qui se fera dans une météo plutôt capricieuse. Écoutez Johan Richomme.
Ça va être une météo assez instable, beaucoup plus stratégique que ce qu'on a vécu dans le Pacifique, néanmoins intéressant. Alors ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va passer du Cap Horn normalement le 24 au matin, voire le 23 au soir, ça dépend. Donc dans un super temps de passage, devant le record de près de 2 ou 3 jours. Et ce qui nous met sur des bonnes bases pour rentrer au Sables d'Olonne. Et voilà, une remontée de l'Atlantique qui va s'annoncer très très stratégique. Et donc extrêmement intéressante.
Johan Richomme en tête du Vendée Globe avec 15 000 nautiques d'avance sur Charlie Dalin. Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil qui régatait, vous en souvenez, il y a un peu plus de 48 heures avec les deux premiers est désormais décroché puisqu'il pointe à 450 000 de retard sur la tête de la flotte.
Pas de résultats sport ce week-end en Calédonie avec les festivités de Noël. Les choses sont plutôt calmes. Mais la semaine prochaine, nous suivrons évidemment de près et même de très près l'Open BNC de Nouvelle-Calédonie de tennis, dont le directeur de tournoi est avec nous sur ce plateau. Olivier Ledin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce grand rendez-vous que les fans de tennis attendent toujours en fin d'année. La première bonne nouvelle, si j'ose dire, et vous n'allez peut-être pas me contredire, c'est que c'est déjà bien que ce tournoi existe.
C'est exactement ça. C'est un petit miracle que le tournoi puisse avoir lieu cette année après ce qui s'est passé. Il a fallu d'abord être beaucoup plus détaché des choses que d'habitude. On a été obligé d'attendre le mois de juin pour commencer à préparer le tournoi finalement. Alors, on avait commencé nos réunions avec les bénévoles, l'équipe de bénévoles, mais forcément il y a eu un temps de pause à cette période. Ensuite il a fallu retrouver un partenaire titre, ce qui n'était pas forcément une mince affaire. On a eu les planètes se sont alignées pour le coup sur ce coup-là. Donc la BNC nous a rejoint pour prendre le leadership des partenaires. Et puis après, les choses sont plutôt bien passées aussi et bien enchaînées pour faire en sorte que le tournoi puisse avoir lieu.
Alors le tournoi va avoir lieu donc à partir de la fin de la semaine avec un beau plateau, un beau champ de joueurs. Hein. On peut dire que vous êtes satisfait là aussi parce que ce n'était pas gagné d'avance.
Non, on avait forcément des inquiétudes. On va dire qu'il y a deux freins. Il y a effectivement les événements du mois de mai dernier et puis on a une desserte aérienne qui a beaucoup faibli par rapport à l'an dernier et notamment la ligne qui allait direct à Melbourne qui n'existe plus et qui forcément nous pénalise.
Oui, parce que ce tournoi, rappelons-le, est placé 15 jours à 3 semaines avant l'Open de tennis de Melbourne et c'est l'occasion pour les joueurs de s'acclimater souvent et de venir chercher pour certains des points.
Exactement ça, c'est que la majorité des joueurs qui sont sur le tournoi chez nous jouent la semaine suivante à Melbourne en qualif, donc pour se qualifier sur le grand tableau. Donc il faut qu'ils puissent repartir en temps et en heure et sans avoir à traverser la moitié de la planète pour allier l'Australie. Donc oui, on a un plateau qui est plutôt, dont on est plutôt satisfait. La grosse surprise, c'est Adrián Mannarino, c'est la présence
d'Adrián
Mannarino.
Surprise de dernière minute. Hein.
Et complètement, en fait, pour la petite histoire, Adrián m'envoie un petit message parce que j'ai sollicité un certain nombre de joueurs qui étaient venus ces 20 dernières années pour faire un petit message d'une minute sur leur souvenir à Nouméa. Et puis Adrián me dit, j'ai envisagé de venir, et puis je ne sais pas encore.
Rappelons qu'il a gagné déjà trois fois.
Il a gagné trois fois, voilà, c'est celui qui a gagné plus de titres ici. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais il faut faire autre chose que d'envisager, il faut venir. En discutant, il a dit, ouais, effectivement, ça serait une bonne préparation, je pars à Auckland la semaine suivante. Donc, premier tour de l'année à Nouméa, ça serait parfait.
Et puis Benoît Paire aussi, hein, qui revient, alors que là aussi, les choses étaient plutôt mal engagées. Il y avait des incertitudes, en tout cas.
Mais en fait, Benoît est inscrit sur trois tournois en Thaïlande, puisque en fait, aujourd'hui, il est 404e mondial, donc il ne peut pas prétendre à jouer les qualifications de l'Open d'Australie. Donc il avait prévu un programme avec trois tournois en Thaïlande. Et puis, sur le premier tournoi en Thaïlande, il n'est pas tableau, il est qualif. Et en regardant le tableau chez nous, il voit qu'il pourrait être dedans, sauf que la date d'inscription est passée. Et donc, on a travaillé avec la fédération pour récupérer une des deux wildcards de la fédération et l'attribuer à Benoît Paire.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche à noter? Est-ce que le vainqueur du tournoi de l'an dernier sera là? Et est-ce que du côté étranger, il y a aussi quelques joueurs qu'il faudra surveiller de près?
Alors, il y a il y a assez peu de joueurs, qui est, notamment du contingent français de l'an dernier qui était important, qui sont revenus cette année. Arthur Cazot sera sur un 250 en Australie, c'est pareil pour Lucas Pouille, c'est pareil pour Richard Gasquet, c'est les trois joueurs qu'on a essayé de faire revenir. En revanche, Enzo Cuoco, le finaliste de l'an dernier, sera bien là, il arrive même dès demain. Voilà. Et puis côté étranger, bah, on a quand même un Marton Fucsovics, qui n'est pas forcément hyper connu du grand public, mais qui a été 31e mondial, qui est aujourd'hui 104e. On a Bernard Tomic, l'enfant terrible du tennis australien, qui sera là aussi et qui est 207e aujourd'hui. Donc voilà, on va avoir un plateau. On a Constant Lestienne qui revient aussi côté français. Donc on a quand même malgré tout un plateau très appréciable pour notre 20e édition.
20e édition, et ça donne toujours des matchs et des journées très intenses, avec un public qui est toujours au rendez-vous et qui vous suit année après année, hein, Olivier Ledain.
Oui, on a tous les ans entre 10 et 12 000 personnes qui viennent sur la semaine. Donc c'est très appréciable. C'est aussi pour ça qu'on s'est battu en fait pour que le tournoi ait lieu, c'est que on a vu les événements sportifs ou culturels se s'arrêter les uns après les autres, et on avait la chance d'être un petit peu loin dans le calendrier, donc d'avoir un petit peu d'attente en se disant allez, ça va passer. Et puis voilà, donc on est content que le tournoi ait lieu pour que le public soit un peu récompensé de son habitude de venir nous voir. Et puis voilà, il va faire beau, j'espère. Donc
ça, c'est toujours l'angoisse pour le directeur de tournoi, d'avoir des matchs à décaler ou des journées un peu arrosées.
C'est toujours la météo qui est un peu notre épée de Damoclès. Mais en tout cas, oui, on est très content pour le public que le tournoi puisse avoir lieu. Voilà, on a fait en sorte de mettre de nouveau des jeux à l'entrée du site pour qu'il y ait des choses à gagner, etc. Donc on est toujours dans une interactivité accrue.
Justement, 20e année, un beau plateau, un nouveau sponsor, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés que vous avez essayé de mettre en œuvre ? Alors soit parce que les circonstances vous ont obligé à trouver de nouvelles choses, soit parce que vous aviez envie aussi de proposer du neuf au public.
Alors, c'est pas forcément au public qu'on va proposer du neuf cette année. C'est plutôt sur les joueurs où on a voulu travailler ce qu'on a appelé l'expérience joueur. Alors, ça commence à l'arrivée à Tontouta, en fait, où on a mis en place vraiment des navettes spécifiques au tournoi, ce qui n'était pas le cas depuis 20 ans. Donc, on a vraiment voulu apporter cette amélioration qui, certes, a un coût, mais aujourd'hui, on est arrivé sur un tournoi Challenger 100 très reconnu et on pouvait plus permettre de laisser les joueurs dans des bus, arriver avec les touristes, être les derniers à arriver à leur hôtel, etc. Donc il faut vraiment qu'on, si on veut continuer à ce que les joueurs notent bien le tournoi, fallait améliorer cette partie-là. Et le deuxième challenge qu'on s'est fixé, c'est d'avoir la même balle vraiment identique à celle de l'Open d'Australie, puisqu'on avait jusqu'à présent des Dunlop, je suis obligé de citer la marque, AO. Donc qui sont celles de l'Open d'Australie, mais qui étaient celles du marché. Et donc là, on a vraiment travaillé directement avec l'Australian Open, qui nous a envoyé 50 cartons supplémentaires. Et donc on a la balle estampillée 2025 pour cette année. Donc les joueurs seront vraiment dans les mêmes conditions qu'à Melbourne, encore plus que d'habitude, puisque là on sera vraiment sur les mêmes terrains, les mêmes balles et les mêmes conditions climatiques, peu ou prou.
Alors un mot encore, Olivier Ledain, sur ce que représente aussi ce tournoi pour le monde du tennis en Calédonie, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille avec vous, des bénévoles, des jeunes engagés, il y a les ramasseurs de balles, il y a aussi tout le staff technique, il faut organiser tout ce qui est cordage, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Pour le monde du tennis, c'est aussi un catalyseur en quelque sorte ce tournoi ?
C'est à la fois un catalyseur, c'est aussi une bonne bouffée d'oxygène dans cette année qui a été quand même difficile, où on a été privé d'une partie du calendrier local. Et puis oui, vous l'avez dit, c'est les bénévoles qui s'impliquent tous les ans. Ça finit même.
Est-ce qu'il y en a encore des bénévoles ? Parce qu'on dit beaucoup que c'est compliqué, surtout à cette période de l'année.
C'est compliqué. Voilà. Et
la soirée du 31 sera un petit peu, entre parenthèses.
Il y a des sacrifices à faire, effectivement. Mais en tout cas, non, on arrive toujours à trouver un peu plus grosso modo 120 bénévoles pour être ramasseur de balles. Il y en a une quarantaine pour être juge de ligne. Il y en a une trentaine pour être hôtesse. Il y en a une vingtaine pour le staff de la logistique autour du tournoi. Il y a une quinzaine de personnes aussi. Les cordeurs, vous l'avez dit. Donc voilà. Tout ce petit monde est bénévole. On a vraiment des passionnés de tennis, des gens qui ont envie de vivre une expérience. On a un public un peu nouveau aussi cette année, des gens qui ont perdu leur emploi, qui en attendant de retrouver quelque chose, veulent continuer à créer du réseau, à être actifs. et vient nous voir en disant mais c'est pas grave s'il n'y a pas d'argent à gagner, mais je veux participer à cette belle aventure. Donc voilà, on va dire que c'est un mal pour un bien et que ces conditions ont créé aussi un nouveau public pour nous, et donc ça c'est aussi une bonne nouvelle.
Alors à propos du public, quand est-ce qu'ils peuvent venir voir les matchs? Les premiers coups de raquette, on l'a dit, c'est le 29. Est-ce qu'il y a un temps de sélection avant? Est-ce que les cours du Wentoro sont ouverts un peu plus tôt? Enfin bref, à partir de quel moment le public peut venir participer et en tout cas suivre ce tournoi?
Alors à partir de jeudi, vendredi, samedi, le site est ouvert. Il sera en mode, on sera en train d'installer le site un peu dans tous les recoins. Mais le public peut venir voir les joueurs s'entraîner totalement gratuitement. Et puis à partir de dimanche, va démarrer la compétition avec 9 matchs de qualification dans lesquels on retrouvera deux Calédoniens et deux Tahitiens à qui on a donné les wildcards qualifs.
Qui sont-ils?
Alors c'est on va commencer par les Tahitiens, c'est Gillian Osmond qui commence à être un habitué du tournoi puisqu'il avait fait aussi demi-finale du double avec Maxime Chazal l'an dernier. On a Antoine Voisin, qui est un autre joueur tahitien que la fédération tahitienne nous a recommandé. On a Jalan Salin, qui est un jeune calédonien qui est parti progresser en métropole. Et puis la dernière wildcard, je l'ai perdue.
Voilà, quand on a trop de choses dans la tête, perdu, c'est ça. Ça va vous revenir.
Je vais la retrouver. Et puis on a donné la wildcard tableau, celle dont on disposait, à Eremana Courte, qui avait gagné les Jeux du Pacifique pour la Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Donc voilà, on est sur les premiers jours avec la qualif jusqu'à lundi midi, et à partir de lundi midi on commence le grand tableau.
Et on suivra aussi l'enfant du pays, Maxime Chazal, qui est toujours fidèle à ce tournoi, hein.
Voilà, alors Maxime était un peu blessé, donc on a une petite incertitude concernant Maxime. Je lui ai envoyé un petit message ce matin, mais j'ai pas eu de retour, donc j'espère que Maxime sera rétabli et qu'il pourra défendre ses chances.
Qui vous voyez gagner ce tournoi, ce 20e? Est-ce que vous souhaiteriez qu'Adrian Manarino inscrive son nom pour la 4e fois au palmarès de ce tournoi?
Oui, alors je m'interdis, je suis déjà très mauvais en pronostic habituellement.
On l'avait déjà remarqué.
Donc c'est pas une découverte pour personne. Je me garderais bien de faire un pronostic sur le tournoi dont je suis le directeur, mais en tout cas, on a la chance quand même malgré tout, tous les ans, d'avoir un très beau vainqueur. C'est sûr que ça nous ferait plaisir qu'Adrian, qui est tête de série numéro 1 et 67e joueur mondial, aille le plus loin possible. C'est toujours ce que souhaitent tous les directeurs de tournoi, hein, que les têtes de série 1 et 2 aillent le plus loin possible pour maintenir une affiche, une belle affiche sur la finale. Ça ne veut pas dire que si c'est deux joueurs, ce n'est pas une belle affiche non plus, hein. Caso et Quaco nous l'ont prouvé l'an dernier.
Quand on arrive en finale à tournoi, c'est qu'on le mérite généralement.
Voilà, donc, ce qu'on veut, c'est que le tournoi se déroule bien, que les joueurs soient contents, que le public soit content. Et dans cette année qui a été difficile, ça serait déjà des belles victoires.
Merci beaucoup, merci Olivier Ledain, d'être venu sur ce plateau, directeur de ce tournoi BNC Open de tennis de Nouvelle-Calédonie. Pour le public, donc jeudi, vendredi, samedi, rendez-vous sur les cours du Wentoro gratuitement pour assister aux entraînements des joueurs et au premier coup de raquette. Et le tournoi, lui, débutera en tant que tel dimanche.
Ouais. À 10h30.
Merci beaucoup, Olivier Ledain.
Merci.
C'est la fin de ce magazine des sports. Il est midi et 15 minutes sur Radio Rythme Bleu. La suite, c'est évidemment avec Thierry jusqu'à 13h. Et 13h, ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité.